Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel et Shabbat Shalom. Rav Eli Lemel, on avance, on survole comme chaque semaine notre paracha, ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine, et on arrive à l'un des plus connus puisque c'est l'Erch Lecha. L'Erch Lecha textuellement a été traduit par « va vers toi-même ». Mais des générations et des générations d'érudits, de sages se sont posé la question de savoir pourquoi il y a une succession de choses que doit quitter Abraham qui sont citées dans l'ordre et qui sont d'ailleurs justement pas citées dans l'ordre. La maison de ton père, vous allez nous expliquer tout ça. Donc il y a vraiment un enseignement sur lequel vous voulez revenir ce soir là-dessus. Mais vous voulez aussi le lier, d'après ce que j'ai compris, avec aussi tout le passage avec Lot, la séparation avec Lot. Et donc il y a une vision qu'on peut avoir d'Avraham qui nous éclaire à nous. Maaseavot siman labanim. En étudiant, en voyant comment Avraham agit, c'est un enseignement pour nous, mais vous voulez essayer ce soir de lier plusieurs éléments ensemble.
Oui, tout à fait, mon cher Bernard. En effet, cette paracha est extrêmement riche avec ce fameux Lech Lecha pour Avraham, ce part pour toi, et puis aussi ces événements avec Lot, Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Alors, en premier lieu, tout d'abord, ce Lech Lecha, ce part pour toi de ta terre, du lieu dans lequel tu es né, de la maison de ton père. Et on voit très bien qu'ici, les choses sont à l'envers, mais disent nos maîtres, pas du tout. Au fond, c'est tout l'enjeu de prendre de la distance par rapport à l'impact que pouvait avoir un système sur l'individu. Le pays, en effet, a un retentissement sur la personne, mais pas trop important. C'est ce qu'on appellerait la culture générale. Et puis après, l'endroit dans lequel on a grandi, c'est quand même un lieu qui a eu sur nous plus d'impact. Et puis évidemment, la maison de notre père, là, on a été pendant toute notre enfance, on a véritablement respiré une atmosphère. Et Dieu dit d'Abraham, eh bien voilà. Dieu dit à Abraham, il faut que tu saches que pour construire une histoire, il faut d'abord savoir, et le terme est fort, j'en conviens, se débarrasser d'une histoire ancienne. Alors, on peut l'entendre de manière péjorative, mais je préfère qu'on soit capable d'écouter ce mot au second degré. On ne peut pas être à l'écoute d'une nouvelle parole si l'ancienne parole est encore chez nous. Il faut tout d'abord se dire, ça y est, il y a quelque chose dont on doit se séparer, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir véritablement se nourrir de l'histoire nouvelle qui arrive. Au fond, c'est un petit peu comme dans un mariage. On ne peut pas véritablement s'inscrire dans une relation si on n'a pas d'abord décidé que, eh bien, nous ne sommes plus célibataires, ça y est, c'est du domaine de l'impossible, et que ces choses soient extrêmement claires. Ici, plus particulièrement par rapport à la civilisation dans laquelle Abraham a grandi, un lieu dans lequel, eh bien, il y a de la Avodah Zara, il y a un culte idolâtre, mais surtout il y a un personnage très particulier. Ce personnage, c'est qui? C'est Nimrod, ce roi qui se révolte. Mais surtout, vous savez, Nimrod, c'est celui qui était derrière un petit peu toute l'histoire de la tour de Babel. C'est celui qui a rassemblé les individus pour aller s'opposer au créateur de l'univers, pour dire « on ne veut pas de cela, ça ne nous intéresse pas ». Et donc, Dieu dit à Abraham, si ces notions sont encore un peu présentes dans ton esprit, tu ne pourras pas véritablement tirer profit de l'histoire que tu vas construire en Eretz Canaan, en terre de Canaan. D'ailleurs, c'est ce qui nous explique un midrash assez étonnant qui nous relate ces conversations qu'Abraham va avoir et à la fois avec son père et puis avec d'autres personnes. En effet, ce midrash nous dit que Abraham rentre dans ce fameux magasin d'idoles que possède son père et puis il voit une personne qui veut acheter une idole. Alors il lui demande « Mais quel âge as-tu ?» Et l'autre lui dit « 50, 60 ans. » Et lui dit « Je ne comprends pas, cette idole a été confectionnée il y a quelques jours et tu penses qu'elle peut avoir un impact par rapport à toi-même. » Et puis il se tourne par la suite vers cette personne qui veut amener des offrandes et tout le monde connaît l'histoire. Il va casser les idoles, il va mettre une forme de marteau dans la grande idole. Et lorsque son père arrive et constate que les idoles sont brisées, Abraham explique qu'ils se sont disputés à cause de la nourriture. Et la grande idole a cassé les autres. Et son père de dire, mais c'est ridicule, elle ne bouge pas. Et Abraham de lui dire, mais au fond, tu vois bien que c'est ridicule. Alors, c'est quoi ce midrash au fond? Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Bon, c'est sympathique les histoires. Au fond, ce midrash nous dit la chose suivante, c'est que on ne peut pas véritablement s'inscrire dans quelque chose si on n'a pas une vision claire à l'intérieur de nous sur cet univers dans lequel on ne sera plus et on ne sera pas. Comme si au fond, il fallait qu'Abraham s'entende dire ô combien le système duquel il était en train de s'arracher était totalement ridicule. Et au fond, ça a été un petit peu la problématique qu'il va y avoir avec Lot. Parce que d'un côté, Lot, le neveu d'Abraham, a été capable de s'inspirer profondément d'Abraham à travers cette qualité première qu'il possède, qui est le chesed, la bonté, l'altérité. Nous voyons bien que Lot, qui va à Sodome et Gomorre, n'a pas peur de prendre des risques pour pouvoir accueillir des invités, ce qui est incroyable. Le texte, quand vous l'analysez, montre qu'il s'oppose aux habitants de la ville, parce que pour lui, accueillir des invités, c'est fondamental. Il y a même un midrash qui nous dit que sa fille a été condamnée à mort, et de la manière la plus horrible qui soit, parce qu'elle a donné du pain à un étranger, donc c'est pas juste un concept, c'est quelque chose qu'il vit profondément. Et pourtant, on a un regard assez dur sur Lot. Pourquoi? Parce que justement, Lot est celui qui a adhéré à la vision d'Abraham, mais en même temps ne s'est pas débarrassé d'autre chose. Il est celui qui reste encore totalement pétri des valeurs, entre guillemets, des systèmes dans lesquels il a évolué précédemment, et plus particulièrement les valeurs de l'argent, de la possession, puisque nos maîtres nous expliquent que c'est ce désir d'avoir et de devenir riche qui l'a poussé à aller dans la société de Sodome et Gomorre, alors que Abraham a été capable de mettre complètement de côté ces notions dans son existence. Oui, en effet, il va avoir une réussite matérielle, mais pour lui, ça ne représente rien. Ce n'est pas quelque chose qui peut le pousser à aller dans un système dans lequel il sentirait qu'il y a un potentiel danger spirituel. Et c'est là où, en effet, se situe l'enjeu d'Abraham. Mais on va bien voir que cet enjeu d'Abraham, c'est de dire à Lot, « Lot, pourquoi tu ne t'es pas débarrassé de ce que tu devais mettre de côté avant d'aller et de t'engager dans une autre voie ?» Alors vous allez me dire, serait-ce à dire qu'il faut d'abord s'écarter complètement des choses avant de s'inscrire dans une dimension nouvelle ? Le verset le dit un petit peu, « Sourmera vasetov, écarte-toi du mal et fais le bien. » Mais nos maîtres nous disent clairement que on ne va pas attendre d'être complètement à l'extérieur de tout ce qui est négatif pour commencer à faire le bien, sinon ça n'ira pas. On commence à faire le bien, mais souvent on peut, le mot sera peut-être un petit peu fort, mais je l'assume, c'est se croquer soi-même. On se voit agir de manière positive, on se voit agir en faisant des choses qui sont bien, on se voit dans ce chesed d'Abraham, cette bonté d'Abraham, et donc on n'examine plus véritablement ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Vous savez que c'est intéressant de voir qu'il y a un reproche quand même qui sera fait à Abraham. C'est que Abraham aurait pu éventuellement impacter Lot, mais s'en est séparé. Pourquoi ? Parce qu'Abraham s'est rendu compte qu'à un moment, Lot pourrait lui aussi l'amener à descendre de niveau. Et ce qu'on dit à Abraham, eh bien tu aurais dû grandir encore plus pour réussir à ne pas être impacté par la proximité de Lot et réussir à le transformer. On est ici dans des niveaux qui sont évidemment extrêmement élevés, mais si la Torah nous en parle, c'est qu'il y a ici une leçon fondamentale. Cette leçon d'Abraham qui nous dit « Écarte-toi de toutes ces valeurs qui sont toxiques et qui sont nocives. À l'intérieur de toi, sois clair sur le fait qu'elles n'ont rien à faire dans ton existence. Et c'est seulement à partir de là que tu pourras véritablement te nourrir des nouvelles valeurs. » Ce danger de penser que être dans le bien est suffisant alors qu'il faut aussi s'écarter de toutes ces choses négatives. Et puis, cette dernière leçon qui mériterait un long développement évidemment, mais ce n'est pas le moment, c'est de se dire néanmoins, lorsqu'on est dans un monde qui est potentiellement toxique, eh bien, nous devons nous-mêmes continuer à grandir pour faire en telle sorte que, dans la confrontation que nous aurons avec lui, nous puissions lui apporter quelque chose. Et j'ai envie de rapporter juste cet enseignement que j'ai entendu d'un grand maître lorsque il nous parlait de toutes les difficultés spirituelles qui existent aujourd'hui dans l'univers et de certains qui pensaient qu'il fallait lutter contre. Alors ce maître, fils de Rav Shlomo Zalman Auerbach, disait non, on ne repousse jamais l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière. Voilà en effet tout un programme.
Rav Eli Lemel, merci. C'est vrai que l'Ech Lecha a toujours été un passage particulièrement cher à nos cœurs, parce que c'est vraiment l'un des plus beaux, si on peut dire. Ça voudrait dire qu'il y en a des moins beaux. On ne va pas parler comme ça. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem, on le retrouve, Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, au mevoir, Bessimana Tava, on l'a dit pour Bereshit et on le redit encore aujourd'hui, Bessimana Tava. On
avec
démarre
plein
l'année, Bézat Hachem.
Un mois sans fête, Rejvan, un mois sans fête, à tel point qu'on l'a appelé Mar Rejvan. Mais ouais. Justement, c'est le mois pour, on va en profiter pour étudier. Je crois que c'est exactement ça un peu le message.
On va se concentrer après les fêtes, on va se mettre sur la bonne lancée.
On a fait le plein en même temps. Alors, on arrive à la paracha noire, on l'a dit. Paracha noire. Alors, vous voulez poser la question suivante. On critique la génération noire, on compare Noir à Abraham Avinu, mais bon, voilà, cette génération qui a connu le déluge, parce que voilà, c'était plus possible. Mais vous voulez poser la question, est-ce que nous, finalement, on fait mieux ?
Mais nous, on a maintenant 4000 ans de recul sur le déluge et un peu moins, donc également 4000 ans de recul sur Avraham Avinu. Donc, quand on lit les commentaires qui comparent Avraham et Noach, alors on a tendance à les répéter, mais sans comprendre qu'ils nous interpellent. De quoi s'agit-il ? On reproche à Noach, en fait, de ne pas avoir prié pour sa génération. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour sa génération. Les 300 dernières années avant le déluge, c'était des années qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez des plateaux de télévision envahis par des hommes qui vous disent « je ne suis pas un homme ». Ne dites pas qu'il y a des hommes sur le plateau, c'est des non-binaires. Il n'y a pas longtemps, il y a un type qui a publié un statut, toute une vidéo, pour célébrer le mariage avec son alligator. Bon, quand le matin, il est Timothée Ali, il doit être content. Bref, on est dans un monde qui est devenu, pour l'instant délirant, mais je vous le garantis, dans quelques temps, il y aura des modes, et puis après, ça deviendra aussi une obligation socioculturelle de marier avec son chat. Karl Lagerfeld a légué sa fortune à son chat, bientôt, il y aura des gens qui se marieront avec leur chat, et qui régleront, et qui vont donner leur héritage à leur chat. Donc là, pour l'instant, on est dans le délire, mais dans pas très longtemps, on va arriver à des situations qui sont des situations de normalité socioculturelle. Alors, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Les 300 dernières années avant le déluge, c'est des années dans lesquelles il y avait une normalité socioculturelle d'accoupler des éléphants avec des alligators et que les hommes se marient avec des animaux et qu'on dérègle complètement toute la nature. Tout ça était devenu une normalité socioculturelle. Alors, on dit « Noach, tu n'as pas pu sauver ta génération. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que tu n'as pas prié. Tandis qu'Avraham Avinu, lui, il a prié pour Sodome et Gomorre. Et s'il n'y avait que 9 justes à Sodome et Gomorre, Avraham Avinu aurait été prêt à rentrer, habiter à Sodome et Gomorre, s'installer, être le 10e tzaddik pour sauver la ville. Et donc ici, il faut comprendre finalement, pourquoi est-ce qu'on compare Avraham Avinu et Noach, et finalement, quel enseignement on peut en tirer ? Et là, il y a un enseignement qui est fondamental, et il est fondamental pour nous, aujourd'hui, en 5783, en 2022, d'après leur compte, qui est faux d'ailleurs. Et l'enseignement, il est le suivant. Au début, lorsque Noach va rentrer dans la Teva, la Torah nous dit qu'il va y rentrer Mipne Mehamaboul. Il rentre dans la Teva, dans l'arche, parce que les eaux du déluge le poussaient à rentrer. Et Rashi, Rabbi Shlomo Yitzraki, de Troyes, va commenter, il va dire, bah, vous savez, finalement, Noach, il faisait partie des gens qui étaient petits en Emouna. Petits en Emouna, mais au début de la parasha, il était petit dans sa foi. Alors, au début de la parasha, on a dit que c'était un tzaddik, c'était injuste. Donc c'est injuste de dire que ce juste est petit, si je puis dire. C'est quand même bizarre. On nous dit non, il rentre parce que finalement, il ne croyait pas qu'il y aurait le Maboul. Il ne pensait pas qu'il y aurait le Maboul. Et ben pour comprendre cet enseignement, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est finalement la émouna, la foi? C'est pas seulement la foi, la traduction ici, elle est très faible, comme toujours, traduction, trahison. La émouna, c'est cette vision du monde qui nous ordonne, on nous ordonne dans la Torah, de connaître l'action divine, le plan divin, le projet divin, la manière dont Hachem intervient dans le monde. Et notamment, la émouna nous invite à comprendre que la bonté d'Hachem, le chesed d'Hachem, la rahmanout, la miséricorde d'Hachem, elle est littéralement infinie. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous, on voit toutes sortes de crapules continuer à vivre, à prospérer. Nos sages d'ailleurs posent cette question. Ils répondent par exemple dans Ktuvot, on parlait hors antenne maintenant de Ktuvot, il y a un Tosfot dans Ktuvot à page 29, qui dit que finalement on voit parfois des gens horribles vivre très longtemps et finalement mourir dans leur lit. Et Tosfot va dire, c'est pas parce qu'ils ont fait une mitzvah. Ils ont fait une mitzvah qui leur a donné la possibilité d'avoir ce chesed. Mais quelle est la proportion entre une vie entière vouée à casser, à détruire, et une mitzvah, un commandement que ces gens-là auraient pu comprendre? C'est ce que finalement on nous invite à comprendre. Arrêtons d'enfermer Hachem, son projet, sa manière dont il intervient dans les catégories humaines. Finalement, la bonté d'Hachem, elle dépasse de très très loin les capacités que nous avons même de la penser et de même de l'énoncer. Et ça, c'est ce que Avraham Avinu avait compris. C'est pour ça qu'il était capable de prier, même pour Sodome et Gomorre, c'est-à-dire pour que cette ville soit sauvée. Mais derrière, il avait un projet, qu'elle soit sauvée, qu'elle fasse teshuva, qu'elle avance, que la bonté et la grandeur d'Hachem soient reconnues même par les habitants de Sodome et Gomorre. Mais lui, il avait compris ce que Noach ne pouvait pas comprendre, ce que cette génération ne pouvait pas comprendre, c'est qu'en fait, la bonté d'Hachem, elle est totalement infinie, elle est impensable et elle n'est pas envisageable intellectuellement par les êtres humains que nous sommes. Et donc, on doit toujours penser qu'il y a, oui, une possibilité de sauver, qu'il y a une possibilité, finalement, que Hachem intervienne dans le monde et renverse complètement le cours de l'histoire. Et ça, Avraham Avinu l'avait pensé, et ça, Noach, pour lui, c'était quelque chose qui était devenu impensable, parce qu'il n'a pas prié pour sa génération, parce qu'il était Katan Be'emouna, petit dans sa Emouna, c'est-à-dire finalement, d'une certaine manière, à son niveau à lui, d'une certaine manière, réduit dans sa capacité de perception de l'intervention d'Hachem dans le monde, de sa bonté, de sa miséricorde, chose qui n'était pas le cas d'Abraham. Alors, mais dans quel enseignement pour nous? Eh bien, c'est très simple. On vit dans une génération aujourd'hui qui est une génération qui nous offre des folies qui sont exactement comparables, comme je l'ai dit au début de notre entretien, eh bien, exactement comparables à ce qui s'est passé durant les dernières années avant le déluge. Mais la question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on prie pour notre génération? Est-ce qu'on a suffisamment d'amour pour Hachem et d'amour pour nos frères et pour nos sœurs, et d'une certaine manière pour toute l'espèce humaine, pour prier pour l'espèce humaine? Est-ce qu'on a suffisamment compris que la prière, et notamment la prière collective, c'est finalement un cri qui monte vers Hachem, mais quand ce cri, il appelle à la bonté d'Hachem, il rencontre la bonté d'Hachem, Hachem, il peut déverser cette bonté dans le monde, comme la Maseret, le traité Brachot, nous l'explique pour les bénédictions. Quand on fait des bénédictions, on fait monter un flux de bonté, de tov, de bon, de ce qui est bon vers le ciel, et ça rejaillit automatiquement sur l'espèce humaine, sur la nature et sur le peuple juif. Et finalement, est-ce compris? Beaucoup de gens disent, mais moi, vous savez, moi je peux pas intervenir, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas un orateur, je sais pas parler, j'ai pas d'argent pour quoi que ce soit, je ne sais pas finalement aller m'adresser aux autres. Mais est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intimité, tu penses que Hachem peut, oui, sauver tout le monde et que Hachem peut faire du bien à tout le monde? Est-ce que tu penses que Hachem peut ouvrir le cœur et l'esprit de toute l'espèce humaine? Si tu le penses, alors prie. Et ça, c'est fondamental de comprendre. C'est un enseignement pour nous. On n'a pas besoin aujourd'hui, finalement, d'être capable d'agir. Il suffit de prier. Et toute personne qui comprend ça, elle devient Gadol Be'emouna. Parce qu'elle peut prier pour tout. Pour tout, pour tout. C'est pour la tchouva de toute espèce humaine, pour que toute espèce humaine revienne au bon sens, pour que tout Israël soit dans le bon chemin, pour que finalement, Hachem nous éclaire de sa Torah, y compris les gens qui sont les plus éloignés. Et ça, c'est un enseignement tout à fait fondamental et qui s'adresse à nous très directement, et c'est la raison pour laquelle je posais la question au départ. Est-ce qu'on fait mieux? Est-ce qu'on fait mieux que Noach? On lit les commentaires qui comparent Noach à Avraham Avinu, mais est-ce que nous, on fait mieux que Noach? Est-ce que nous, on prie pour notre génération? Est-ce que nous, on prie pour des gens que nous ne connaissons pas? Est-ce que nous, on pleure un peu, beaucoup, quelque peu, pour des gens qui finalement n'ont jamais eu le bonheur de connaître le Shabbat, la joie du Shabbat ou la joie d'étude de la Torah? Au moins ça. Ça, c'est une question qui nous est posée très directement. Je pense qu'il faut faire très attention dans les commentaires qui comparent Noach et Avraham Avinu, d'abord à les ramener vers nous et essayer de comprendre si finalement on fait réellement mieux que la génération d'Avraham Avinu. Et je vais terminer en nous souhaitant qu'on sache effectivement mieux faire que cette génération et qu'on apprenne à prier pour les autres en sachant que finalement, c'est ça qui nous est demandé. La force de la tfila, elle est, la force de la prière, elle est incommensurable. Et Hachem attend la tfila. Il y a un commentaire de Rashi, je vais commenter avec, terminer avec ça. Il y a un commentaire de Rashi sur le chapitre 8, verset 1. Où il est marqué là-bas que Elohim, Dieu dans la tribu donc de Din, de rigueur, il va se souvenir de Noar et de tous les animaux qui étaient dans l'arche. Et Rashi dit, pourquoi est-ce qu'au moment où Hachem se souvient de Noar pour mettre fin au déluge, et on utilise le nom de la tribu de rigueur? Pourquoi? Alors il dit parce qu'en fait, les tzadikim, les justes, par leur tfila, par leur prière, ils changent la midatadine, la tribu de rigueur, en la tribu de bonté. Donc ils provoquent un flux de bonté, alors que les réchaïm, les destructeurs, simplement par leur attitude, ils transforment ce qui peut être bon, finalement, en rigueur. Les gens qui vivaient avant le déluge avaient toutes les bontés du monde, ils ont transformé ça en rigueur, et finalement en destruction, ils se sont détruits, ils ont finalement provoqué une destruction générale. Donc finalement, c'est ce qui est dit ici, la prière des tzadikim, elle change tout. Mais quelqu'un qui prie, et qui prie, y compris pour des gens qu'il ne connaît pas, et simplement parce qu'il sait que ces gens-là ne sont pas là où ils doivent être, d'après la Torah en tout cas, et cette personne, elle devient tzadik, et sa prière, elle est oui entendue. Donc comprenons ça, comprenons ce que nous dit Rashi ici, à savoir qu'on peut prier pour la génération, et donc finalement réparer d'une certaine manière ce que Noir n'avait pas pu faire. Voilà, Shabbat Shalom à toutes et à tous, Bezrat Hashem.
Tout à l'heure, un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, mais je ne comprends pas, on dit deux choses l'une après l'autre. On dit, Dieu est d'une infinie bonté, c'est une évidence, et deuxièmement, il faut prier. S'il est... Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, et vous allez me donner votre réponse. Ben, s'il est d'une infinie bonté, pourquoi on a besoin de le prier, s'il est bon? Alors, on m'a répondu, on a dit, parce que d'abord, déjà, demande, c'est la base. N'importe où, dans n'importe quelle relation. D'abord, déjà, demande. Et d'ailleurs, dis s'il te plaît. Et après, on te donnera. C'est toujours comme ça. C'est pas, y a pas une contradiction. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait, c'est réponse possible. Et puis, il faut expliquer en hébreu aussi que quand prier, c'est mitpalel. Mitpalel, c'est une forme passive. C'est comme si on dit « je suis prié ». Normalement, on devrait dire « animéphalel ». C'est quoi « animéphalel » ? C'est qu'en fait, la prière que je fais, elle me construit. Donc, quand moins j'apprends à demander, quand moins j'apprends à espérer, et à espérer des choses qui paraissent folles du point de vue humain, mais tout à fait pensables du point de vue divin, puisque Hachem nous a promis, nous a dit qu'il est une infinie bonté, ben, j'acquiers les midotes, les traits de caractère, entre guillemets, qui sont propres à la manière dont Hachem se manifeste dans le monde. C'est ce que dit le Tomer Deborah, Rav Moshe Cordovero. Il dit que finalement, le travail de l'homme, c'est finalement de s'éduquer à imiter les comportements d'Hachem. C'est ce que dit également la Gemara à plusieurs reprises. C'est de ça dont il s'agit. Pourquoi est-ce que Hachem nous a créé dans un monde où il faut prier? Ben, c'est pour qu'on apprenne à ressembler à sa bonté à lui. Et donc, à espérer des choses qui, du point de vue humain, sont peut-être folles, mais qui, du point de vue divin, sont complètement pensables et complètement méritées.
Rav Mordechai Bitton, on va essayer d'y penser durant tout ce Shabbat qui vient. Je vous remercie à Jérusalem. Et je vous dis Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir.
Shabbat Shalom.
Et Shabbat Shalom.
Et quel Shabbat Shalom pour vous, Rav Gay, et pour toute la communauté juive de Paris et de Neuilly. Donc vous avez eu toute cette campagne, je crois que ça s'est bien passé finalement, je parle pour Aleph. Hein.
Ça, c'est plutôt... Alors c'est parfait, on est arrivé avec un jour de plus, en 4 jours, à boucler les 2 millions d'euros que nous recherchions. C'est grâce à la solidarité de toute la communauté, et pas seulement de la communauté d'ailleurs, je voulais vous le dire, il y a aussi des non-juifs qui se sont associés de façon incroyable. C'est donc une solidarité totale, impressionnante, de la part de gens que je ne connais pas et qui se sont associés à nous et qui nous ont permis d'obtenir, d'arriver à notre objectif.
Voilà, cet argent qui vous était demandé, notamment, je trahis pas de secret, par les banques pour pouvoir vous comme garantie, et vous avez réussi à avoir cet argent. J'en profite pour dire d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, parce que vous le ferez pas, donc moi j'y vais. Ceux qui ont promis des dons qui ne les ont pas faits, on peut encore maintenant, même il faut d'ailleurs. On ne reste pas avec une dette comme ça, une promesse pour une institution de Torah. Le mieux, c'est de le faire maintenant, on fait une enveloppe. Même, je parle sous le contrôle du Rav, je sais qu'on peut envoyer son enveloppe même avant Shabbat, c'est permis. Mais sinon, on le fait dimanche, mais surtout, il faut le faire parce que j'avais un maître qui m'avait appris que faire une promesse, ça retarde le Mashiach si on la tient pas. C'est quand même, c'est énorme, hein, faire une promesse à la Torah. Mais je suis sous votre contrôle, hein, Rav, c'est pas moi qui vais donner des cours.
Effectivement, ce qu'on appelle les Nidre Mitzvah, les vœux qui sont liés à une mitzvah, c'est des vœux qui sont particulièrement solides et forts et qu'il faut savoir honorer dès qu'on le peut. Et donc, merci beaucoup à tous d'honorer votre promesse.
Votre promesse, et ça va être vraiment à fond dans la solidarité avec la communauté pour ce très, très beau centre qui accueille toute une communauté, plus 500 enfants. Rav Gueh, alors, on continue à étudier la paracha de cette semaine. On est dans l'Ech Lecha. Et vous voulez intervenir sur un point bien particulier, c'est que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, sors, et je te montrerai les étoiles. Et dans cette phrase un peu mystérieuse, vous y voyez, vous, en étudiant nos maîtres, nos chachamim, vous y voyez un enseignement sur les secrets de comment Dieu dirige le monde, carrément, sur ces simples trois mots. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, d'abord, je précise, Avraham n'a pas encore d'enfant. On lui annonce qu'il aura une descendance. Et normalement, à son âge, et vu l'âge de son épouse, Sarah, et vu aussi l'observation dans les étoiles, parce que c'est un astrologue aussi, Avraham, il voit que Avraham, qui s'appelle à ce moment-là Avraham, Avraham et Sarai ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est impossible. Et donc, il se dit, c'est tout simplement une promesse, il est difficile de la tenir. Et pourtant, il croit en Dieu, comme dit le verset, et Hachem considère cela comme une très très belle tzedaka, parce que c'est une tzedaka, parce qu'il croit en Dieu. Mais avant cela, dans le verset qui précède, « Vayotse oto hachutza », dans le chapitre 15, verset 5, il lui dit « Fais sortir à l'extérieur, vayomer habetna hashamayma, observe le ciel, usfor hakochavim, imtuchal isporotam, compte les étoiles si tu peux les compter. Alo koyezarecha, ainsi sera ta descendance. » Et donc ça, je me dis, c'est quoi cette mystérieuse phrase « Sors à l'extérieur ». Alors, nos sages nous disent qu'en fait, il s'agit de sortir, mais itstagninut shelcha, c'est-à-dire sors de ce déterminisme dans lequel tu es parce que tu observes les astres et qu'en regardant les astres, tu es certain de ne pas avoir d'enfant. Mais sors de cette certitude, ce déterminisme, va à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des étoiles. Nos sages nous disent qu'il a pris Avraham, que Hachem, Dieu a pris Avraham, il l'a pris au-dessus des étoiles. Et il a dit de regarder les étoiles d'en haut. C'est-à-dire, lui, il est en haut pendant Avraham, et il regarde les étoiles qui sont en bas. Alors évidemment, tout ça, ce sont des métaphores, des images. Ils veulent nous dire qu'Avraham, finalement, il est parti au-dessus des étoiles. Il est sorti du déterminisme. Et je voudrais ici vous dire un enseignement extraordinaire que j'ai entendu il y a quelques années, je ne me rappelle plus d'ailleurs de qui. On nous dit qu'Avraham découvre ici que Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec deux types de hanagot, deux façons de conduire le monde. Celles que nous connaissons tous, qui sont les lois de la nature, nous les connaissons parfaitement, les règles scientifiques et qui sont tout simplement connues par tous. Mais Hachem a prévu autre chose. Quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses forces, qui se donne à 100%, et même moins qu'à 100%, pour Hachem, mais donc il va au-delà de sa nature propre. Akadosh Baruch Hu Hashem va avec lui avec une autre hanaga, une autre façon de conduire le monde qui est celle qui est au-dessus des étoiles, c'est-à-dire une façon surnaturelle. Quelqu'un qui va au bout de ses limites personnelles, c'est-à-dire qui va aller au-delà de sa nature, il va se faire violence comme le fait Avraham, il prend vraiment des risques énormes, il est jeté dans la fournaise ardente, il va s'opposer au monde entier, il va faire une guerre contre quatre rois qui ont déjà eux-mêmes vaincu cinq rois, il fait des choses incroyables. Avraham, dans ce Messirut Nevesh, ce don de lui-même qui est total, sans limite, Hachem dit, écoute, pour des gens comme toi, moi aussi, ce n'est plus les lois de la nature qui vont te diriger, mais c'est des choses qui sont, c'est une anaga, une direction de l'œil du monde qui est au-delà des étoiles, c'est-à-dire au-delà de la nature, qui est surnaturelle. Et ça, Avraham, effectivement, le découvre à ce moment-là, et il croit en Dieu, parce qu'il dit, voilà, je crois qu'effectivement, il y a d'autres façons de conduire le monde, il y a ce qu'on appelle le domaine surnaturel. Maintenant, je voudrais ici vous donner une explication magnifique sur une Mishnah dans Pirkei Avot. Ben Bagbag Omer, à Forba, va Forba de coup là-bas. Ben Bagbag dit, littéralement, renverse cela, c'est-à-dire secoue la Torah dans tous les sens, parce que tout s'y trouve. C'est-à-dire tu peux tout trouver dans la Torah, il faut juste savoir en extraire toutes ces choses-là. Et pour cela, à Forba, c'est-à-dire il faut savoir l'étudier dans tous les sens. Et Ben Hehe Omer, le Funtsa Aragra, fils de Hehe. Alors, on est tous étonnés par des noms bizarres. Le fils de Hehe, qui s'appelle Hehe. Et Bagbag, c'est aussi un nom très étonnant. Alors, regardez comme c'est extraordinaire. Bag, c'est Bet Gimel. Bet, c'est valeur numérique 2. Gimel, valeur numérique 3. Ça fait 5. Donc, on a fait le fils de 5-5, Bagbag, et le fils de Hehe, sachant que la lettre E également est en valeur numérique 5. Mais ici, l'idée est extraordinaire. C'est qui est ce fils de Hehe, le fils de Bagbag? En fait, ce sont des gens qui se sont convertis. Ce sont des rabbanim, des sages qui sont d'origine non-juive et qui se sont convertis. Et pourquoi on les appelle Ben Hehe et Ben Bagbag? Parce qu'ils sont les fils des deux Hehe. Qui sont les deux Hehe? Eh bien, c'est Avram qui a eu le nom Avraham, on lui a rajouté le Hehe, et Sarai qui est devenue Sarah. C'est-à-dire c'est ceux qui sont nés de l'union d'Avraham et Sarai, mais l'union non pas d'Avraham et Sarai, mais Avraham et Sarah, les deux Hehe. Et c'est de cette union-là que viennent ces guéris, puisque vous savez que tous les convertis sont appelés fils d'Abraham et fils de Sarah. Abraham et Sarah étant les premiers guéris, les premiers convertis, si on peut dire, de l'histoire, des gens qui se sont totalement de leur propre chef, parce qu'eux-mêmes ont voulu se rapprocher de Dieu, ils ont décidé d'adopter le monothéisme. Donc ce sont Ben Bagbag et Ben Hehe, des gens qui se sont convertis, mais qui sont les fils du Hehe d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire le Hehe d'Abraham? Abraham accède à une dimension spirituelle très élevée, celle de maîtriser les 248 membres. Selon la tradition juive, un homme a 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positives. Et jusqu'à présent, il s'appelait Avram sans le Hé, c'est-à-dire 243. Et puis après, on passe à Avraham, on obtient 248 puisqu'on ajoute 5. Eh bien, tout simplement, ces 5 choses sont les deux oreilles, les deux yeux et l'élément donc masculin, la verge, qui est donc la passion, en fait. Avraham va devenir, à partir de ce moment-là, le maître de toutes ses pulsions sexuelles, mais aussi de son regard et de ce qu'il entend. Et donc, il va avoir le nouveau nom qui est Avraham, celui qui maîtrise tous ses membres, c'est-à-dire toutes ses fonctions, et à ce moment-là, il va avoir son fils Yitzhak. Ça veut dire que tout simplement, on voit de là qu'Avraham, à ce moment-là, au moment où il va donner naissance à Yitzhak, c'est un homme qui finalement va aller au-delà de sa nature. Il maîtrise totalement ses pulsions, qui sont des pulsions naturelles, mais il les met au service de Dieu. Et en faisant cela, Dieu lui dit « tu es au-dessus des étoiles ». C'est-à-dire que la conduite que j'ai est totalement surnaturelle. Tu as une conduite extrêmement exigeante envers toi-même qui va au-delà de tes possibilités, de capacités naturelles. Et donc c'est cela qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, ce n'est pas seulement vrai pour un Abraham, pour un Sarai, et c'est ce que nous avons vécu aussi cette semaine. Des fois, Hachem, il envoie des miracles parce qu'on essaye de se donner totalement pour lui. Il faut chaque fois, nous tous, le peuple juif, nous sommes un peuple qui sont gérés par une conduite d'Hachem qui est surnaturelle, métaphysique, et on doit en être conscient. Et c'est parce que tout simplement, le peuple juif est associé à un grand projet. Mais aussi chacun d'entre nous, si on fait des efforts, si on va au-delà de nous-mêmes, Dieu nous apportera une grande Yeshua, une aide divine, incroyable, métaphysique, surnaturelle, parce que nous-mêmes, nous sommes allés au-delà de nous-mêmes. Donc voilà ce que je voulais nous souhaiter à tous, qu'on ait le sroute, le mérite, d'aller au-delà de nous-mêmes, d'ouvrir les portes du ciel, et comme Abraham, de voir les étoiles d'en haut, c'est-à-dire d'être au-delà des lois de la nature, et de réussir, Bezrat Hashem, des grands projets, des grandes choses, parce qu'on en est tous capables, si on croit. D'abord, on a l'aïmouna en Hashem, et puis dans l'aïmouna, de pouvoir nous-mêmes aller au-delà de nous-mêmes, d'aller plus loin que ce que nous avons l'impression de pouvoir aller, de se dire, voilà, se donner le challenge et y arriver. Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom, Rav Gay. Et en vous écoutant, je pensais qu'il y a des grands rachamim, Shmuel par exemple, des Tanaïm, des Amorim, qui étaient des astrologues. Et alors évidemment, il faut bien préciser, ils ne croient pas dans les signes du zodiaque que nous on a dans nos journaux, hein, mais ils avaient une vraie connaissance des étoiles. Rav Gay, je vous remercie et pour ces belles paroles. On souhaite un grand succès donc à Aleph. On va rappeler encore une fois que ceux qui ont promis, ben, il faut qu'ils tiennent. C'est la base. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je voudrais souligner, puisqu'on est dans une émission de Torah, la très jolie initiative de la société QuickSource, qui recherche activement 30 ingénieurs informatiques. Et pourquoi c'est une jolie initiative ? Parce qu'elle propose des CDI et elle permet à chacun de ses salariés de respecter les horaires de Shabbat et des fêtes, donc de Yom Tov. Là, avec les Shabbats qui rentrent très tôt, c'est sûr que c'est pas négligeable du tout. Il faut contacter Lionel Cohen au 01 44 730 750 01 44 730 750. Cette société est basée à Bastille. Elle recherche notamment des développeurs et des ingénieurs en sécurité. Et il y a même quelques postes qui sont à pourvoir en Israël pour ceux qui veulent faire leur alia avec un CDI français. 01 44 730 750 01 44 730 750. Voilà, cette émission est à présent terminée. Shabbat Shalom à tous.
Shalom loy boy na boy, Hashem loy yishmari yeh, shalom shokat shoy meh.